RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Margot Emmerich.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir nous revenons sur la situation au Moyen-Orient après l'attaque de l'Iran sur Israël. Les appels internationaux se multiplient pour éviter un embrasement régional. En France, la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, toujours prévue pour le 8 décembre. Les principaux défis de la restauration ont été relevés. Et puis à 19h05, le grand format de notre édition, nous parlerons de la place des enfants dans nos villes avec une expérimentation menée par la mairie de Marseille. L'appel est à la désescalade. Alors que la réponse d'Israël à l'attaque de l'Iran sur son sol se fait attendre, les États-Unis affichent un soutien plus mitigé à l'État hébreu. S'ils continueront à soutenir Israël, le secrétaire d'État américain déclare ne pas vouloir d'escalade avec l'Iran. Un message partagé par la communauté internationale et la coalition des pays arabes au Moyen-Orient. Pour autant, pour Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et maître de conférences à Sciences Po Paris, l'offensive iranienne ne peut pas rester sans réponse de la part d'Israël.
La non-riposte d'Israël n'est absolument pas une hypothèse. Pour une raison très simple, Israël, et notamment son état-major, a besoin de recouvrer toute sa crédibilité dissuasive. En revanche, il y a deux principales hypothèses quant à une riposte israélienne. La première, à laquelle je ne crois pas, c'est une intervention massive aérienne via 200 à 300 chasseurs-bombardiers sur le sol iranien. D'ailleurs, je pense que les Israéliens l'ont abandonné sous pression américaine et arabe. La deuxième hypothèse à laquelle je crois, c'est une riposte graduelle dans le temps et dans l'espace qui viserait prioritairement l'instrument privilégié de l'Iran et d'ailleurs sa création depuis 82, à savoir évidemment le Hezbollah. Ce qui permettrait à Israël de présenter à sa population en interne, mais également à ses alliés et à ses adversaires, toute sa capacité de puissance, mais sans officiellement devoir revendiquer une intervention massive sur le sol iranien.
L'armée israélienne qui poursuit dans le même temps son offensive dans la bande de Gaza. Et ce soir, la compagnie aérienne EasyJet annonce qu'elle suspend tous ses vols à destination et en provenance de Tel Aviv. Dans ce contexte, une autre guerre est passée largement sous les radars. Au Soudan, plus de 3,5 millions de personnes sont actuellement dans un besoin urgent de réponse humanitaire d'après les Nations Unies. Depuis un an, la guerre a fait plusieurs milliers de morts et des millions de déplacés. Le procès pénal de Donald Trump s'est ouvert à New York en pleine campagne présidentielle. L'ancien président américain est accusé d'avoir acheté le silence de l'ancienne star de films pornographiques Stormy Daniels en lui versant 130 000 dollars en 2016. Une somme maquillée en frais juridiques de campagne. En tout, Donald Trump est visé par 88 chefs d'accusation. Une nouvelle attaque en Australie. Plusieurs personnes ont été blessées lors d'une attaque au couteau dans une église de Wakeley en banlieue de Sydney. L'assaillant a été arrêté et la vie des victimes n'est a priori pas en danger. Samedi, une première attaque au couteau avait fait 6 morts dans la ville. De retour en France, c'était il y a tout juste 5 ans. Une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel de Paris. Tous les regards étaient rivés sur la cathédrale Notre-Dame, dévorée par les flammes. Dans la soirée du 15 avril 2019, le terrible incendie rongeait la charpente, la flèche s'effondrait et des centaines de pompiers étaient mobilisés. Parmi eux, le père Jean-Marc Fournier, ancien aumônier de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Et au milieu du brasier, il a contribué à sauver la couronne d'épines et mise à l'abri le Saint-Sacrement. Écoutez.
Je prends le Saint-Sacrement et avant de le mettre à l'abri dans la sacristie, je bénis précisément la cathédrale. Quand je sors de la bénédiction, je croise le général Gallet qui commandait la brigade de sapeurs-pompiers et il me raconte ce qui s'est produit et le combat épique qui s'est produit dans cette tour nord. Et je m'aperçois en fait au fur et à mesure qu'il raconte que à la fois la manœuvre extraordinaire qui a été mise en place avec un courage magnifique des pompiers de Paris, eh bien, cette manœuvre correspond au moment où je bénissais à l'intérieur de la cathédrale. Donc je veux voir à la fois la technicité et l'engagement extraordinaire des sapeurs-pompiers de Paris, mais je veux croire aussi que notre Seigneur est intervenu par cette bénédiction.
La cathédrale qui rouvrira comme prévu le 8 décembre prochain. Un hommage a été rendu à l'écrivaine Maryse Condé, morte le 2 avril dernier à l'âge de 90 ans. La romancière guadeloupéenne a publié une trentaine de romans portant notamment sur l'esclavage. Un hommage lui a été rendu cet après-midi à la Bibliothèque nationale de France. 19h05 et c'est l'heure de notre grand format. Ce soir, on s'interroge à la façon de redonner de la place aux enfants dans nos villes. La mairie de Marseille teste actuellement les rues des enfants, un concept qui existe déjà à Lyon, avec l'idée d'avoir des rues plus sécurisées et plus conviviales aux abords des écoles. On en parle avec vous, Maude de Bourquenay, bonsoir.
Bonsoir Margot, bonsoir à toutes et à tous.
Vous êtes journaliste pour la radio Dialogue RCF à Marseille. L'objectif de ces rues des enfants, c'est donc d'avoir une sortie de l'école moins stressante pour les parents et plus amusante pour les enfants.
Oui, le secret, c'est de piétoniser les abords de l'école pour ne plus avoir à se serrer sur le trottoir et à filer dès que l'enfant est sorti de l'école. Fini le passage des voitures et le risque d'accident. Le sol est pavé de dessins, des plantes sont installées, des bancs aussi. Devant l'école Friedland à Marseille, l'initiative semble ravir les enfants.
Moi, je trouve que c'est bien pour l'espace, pour les enfants et tout, et c'est mieux pour s'amuser, quoi. Parce qu'avant, on pouvait se faire écraser facilement vu qu'il y avait des gens qui grillaient et tout.
Avant, il y avait trop de voitures, on n'avait pas la place, tout le monde se mettait ici, et bah du coup, on n'avait pas la place, et maintenant, on a plein de place, et on peut jouer tout le temps.
Avant, juste, on sortait de l'école et on partait direct, il n'y avait rien à faire. Mais là, maintenant, t'as quelque chose à faire, quoi. Du coup, tu peux plus rester longtemps dehors et tout.
Bah moi, j'aime beaucoup parce que je m'amuse bien et on peut jouer avec toutes nos copines et nos copains.
Et ça rassure aussi les parents et les grands-parents.
Oui, moi, je trouve que c'est rassurant, là. Ah oui, ils allaient vite, hein, là, quand on...
Voulait,
oui,
ouais.
Oui, voilà, ça allait vite, hein. Moi, je trouve que c'était dangereux. Pour une école, c'est vrai que c'est une bonne chose qu'ils ont fait.
Une nécessité de sécurisation ressentie depuis longtemps par certains parents, selon Éric Méry, adjoint à l'urbanisme à la mairie de Marseille et référent de l'école Friedland.
Depuis 2020, quand moi je suis devenu référent de l'école, à l'époque en plus ma fille elle était élève ici, il était question des problématiques de circulation avec des voitures qui arrivaient vite tous les matins et les parents d'élèves sollicitaient un ralentisseur depuis de nombreuses années, ils n'étaient pas entendus. Alors, au-delà du ralentisseur, moi j'ai de suite proposé qu'on fasse, puisque la rue des enfants c'était une des promesses de campagne, j'ai proposé qu'on la fasse ici, la première dans le 6e, puisqu'elle, je trouvais qu'elle s'adaptait bien, il y avait des problèmes de circulation, il y avait une voirie qui était plutôt adaptée avec une rue qui descend, une rue qui monte de l'autre côté. Et donc les parents d'élèves ont tout de suite adhéré et donc on a pu la classer parmi les rues des enfants prioritaires.
Et pour Olivia Fortin, maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, la présence d'enfants doit redessiner le quartier.
C'est pour nous une priorité absolue qu'on puisse mesurer la ville à hauteur d'enfants, changer de regard. Et donc cette rue des enfants, elle rend visible effectivement la présence d'enfants. Là, les enfants se sont emparés de la rue, ont pu dessiner, ont pu mettre des jeux dans l'espace public avec notre aide et notre soutien évidemment, mais ça matérialise effectivement la présence d'enfants et ça doit participer à l'apaisement de ces abords de manière immédiate évidemment.
Et si cette piétonisation des abords de l'école Friedland bloque toute circulation routière, elle permet néanmoins de laisser passer à titre exceptionnel des véhicules d'urgence et la livraison de la cantine, bien sûr.
Alors Maude, ce dispositif existe actuellement devant 3 écoles marseillaises et il devrait se développer.
Oui, c'est en tout cas le projet de la mairie et l'espoir de Sophie Guérard, adjointe au maire de Marseille, en charge de la place de l'enfant dans la ville.
Le dispositif rue des enfants a été présenté en février 2021 par un rapport au conseil municipal. Et depuis, on a fait une liste de 20 écoles qu'on a travaillé avec tous les services de la ville. Et là, c'est la troisième. Donc nous, à la fois, on est très contents aujourd'hui et à la fois, on sait qu'on est très en retard et qu'on n'avance pas assez vite comme on le voudrait. Mais c'est quelque chose qui se fait dans toutes les grandes villes, en fait. Hein. Moi, je dis souvent, ma délégation, c'est la place de l'enfant. Aujourd'hui, on leur fait de la place, on leur laisse la place. Et il faut que les adultes apprennent à laisser de la place aux enfants. Là, c'est une école où il y aura moins de bruit, moins de pollution, qui sera moins accidentogène. Les 20 premières écoles qu'on a travaillées ensemble, c'est les écoles où il y en avait le plus de remontées, soit d'accidents, soit de pétitions de parents. Donc, on les a choisies sérieusement. Et ben, il en reste encore 17 à faire pour réaliser la... ce qui, pour nous, est la première tranche. Et malheureusement, on pense que ça sera le mandat.
Oui, ça prend du temps et ça crée quelques crispations avec la métropole qui a la compétence voirie et qui est donc chargée d'installer les barrières. Mais les deux collectivités ne sont pas du même bord.
Mais j'imagine aussi que le dispositif ne plaît pas à tout le monde.
Oui, la piétonnisation des abords de l'école force les automobilistes à changer de chemin ou à faire un détour. Mais en tout cas, ce projet plaît beaucoup au collectif des poussettes enragées. Ce sont des parents qui militent justement pour redonner de la place aux enfants dans la ville. Lison en fait partie et quand on lui demande si la rue des enfants est une bonne idée...
Alors oui, je pense que c'est une bonne idée parce que ça permet d'une part de redonner de l'espace de mobilité aux enfants, aux mobilités douces de manière générale. Et puis c'est vraiment un moment de grande convivialité aussi pour parents et enfants. C'est-à-dire que c'est un temps après l'école où il y a une rue comme ça qui est ouverte et réservée aux enfants, ce qui est normalement... en train de leur dire aux enfants, attention, regarde avant de traverser, regarde, c'est dangereux. Voilà, on leur dit, attention, c'est dangereux, je ne sais pas combien de fois dans la rue quand on fait un trajet entre la maison et l'école. Et là, on redonne cet espace et cette sécurité aux enfants pour qu'ils puissent jouer, se rencontrer et profiter de leur chez-eux, de leurs espaces de vie, quoi. Ce n'est pas supprimer les voitures dans la ville, mais c'est en limiter un petit peu l'accès pour rendre cet espace aux piétons et aux cyclistes, mais aussi aux enfants de manière générale. Toutes les mobilités douces, c'est plus on fait de la place à la voiture, plus il y aura de voitures. Plus on fait de la place au vélo, plus il y aura de vélo. Et plus on fait de la place aux piétons, plus il y aura de piétons.
Et le collectif des poussettes enragées milite aussi pour une meilleure accessibilité pour les personnes en situation de handicap, parce que là où les poussettes ne passent pas, les fauteuils roulants ne passent pas non plus.
Merci Maud de Bourquenay. Pour terminer cette édition, on connaît désormais le nom de la première relayeuse française sur le parcours de la flamme olympique. L'ancienne nageuse Laure Manaudou a été désignée pour porter la flamme des JO de Paris après son allumage en Grèce le 16 avril. Et puis dans le même temps, le gouvernement français a quant à lui annoncé que la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris pourrait ne pas avoir lieu comme prévu sur la Seine, mais au Trocadéro ou au Stade de France en fonction des menaces terroristes. 19h12 sur RCF. Très bonne soirée.